Bonjour et bienvenue à Je veux au ciné. Et aussi bonne année à tous!
Bonne
Salut!
année!
Avec moi ce soir. Enfin, avec moi, pas ce soir, aujourd'hui.
Ah, tu t'es trahi!
Oui, je me suis trahi.
Ah, on n'est pas en direct?
Non!
Ah, oh, je suis dégoûté!
Aujourd'hui, j'ai avec moi Mickaël.
Oui, bonjour!
Comment ça va, Mickaël, dans
Bah, ma
cette nouvelle
foi,
année?
bah, ma foi, très très bien. On part sur une très très bonne année.
Bah, j'espère.
Mais
Avec
oui, il faut.
du vin et re du vin.
Ouais, deux trois autres trucs quand même, mais ouais, du vin c'est bien aussi,
Du
oui.
vin deux fois. Et avec moi aussi, j'ai Antoine.
Oh.
Ouais, ça va bien, mais ça irait mieux si t'arrêtes tes jeux de mots.
Ah oui, purée, j'avais pas saisi le jeu de mots. Ah purée, ça craint. Je cautionne pas.
Donc on commence cette nouvelle année par une chronique de Michael. Et comme d'habitude, j'ai une petite surprise.
Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris.
Très bien, je vais essayer.
Non, n'essaie pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Mais il n'y a pas d'essai.
C'est pertinent comme extrait.
Oui, c'est.
Quel beau choix en ce début d'année. Tu te dépasses là, tu te surpasses. Moi, ça n'annonce que du mieux pour le reste de la saison.
La force avec toi était.
Tout à fait.
Je crois que cette intro musicale se passe de commentaires.
Je crois qu'on va parler de La Belle et le Clochard.
Ouais, voilà, c'est ça. C'est un petit film indépendant qui est sorti en cette toute fin d'année 2019, là, qui a fait une sortie plutôt discrète. Voilà. Bon, tous les auditeurs ont compris de quelle musique de film on va parler aujourd'hui. On va parler de Star Wars. Ce thème probablement le plus connu de toute l'histoire du cinéma. N'avait rien, pourtant rien d'évident à l'origine.
Le plus connu, je sais pas, mais un des plus connus en tout cas.
Je pense que tu fais un micro-trottoir, il n'y en a pas un qui ne reconnaît pas.
Oui, mais tu peux faire la même chose avec James Bond.
Ouais, oui. Oui, bon, l'un des plus connus. Bref, je disais donc que ce thème n'avait rien d'évident à l'origine. À l'époque du premier Star Wars, enfin l'épisode 4 en fait, suivez, prenez des notes, hein. George Lucas voulait utiliser des pièces de musique classique pour la guerre des étoiles. C'était son 2001 l'Odyssée de l'espace. Mais c'est sans compter sur un jeune cinéaste confidentiel, humour, lol, ami de Lucas, Steven Spielberg. Il lui conseille alors John Williams, avec qui il a travaillé 2 ans plus tôt sur Les Dents de la Mer. Peu emballé au début, Lucas demande à Williams de faire des pièces très style classique, et finit par se laisser convaincre en voyant le résultat pour notre plus grand bonheur. C'est le début de l'aventure qui s'est achevée pour John Williams cette année avec l'épisode 9 de la saga. Vous avez certainement dû en entendre, vous avez certainement dû en entendre parler. En effet, John Williams, âgé de 87 ans, semble dire que cet épisode sera le dernier pour lui. C'est ainsi qu'un des artistes essentiels de la mythologie Star Wars livre sa dernière partition pour l'épisode 9, qui est en quelque sorte un maxi best-of de tous les thèmes développés pour la saga. Alors, ne pouvant être exhaustif dans une chronique de 5 minutes, j'ai donc sélectionné pour vous les pièces qui, à mon sens, sont les meilleures de la trilogie. Bon, pas de surprise pour celui-ci, le thème iconique d'un des plus grands méchants de l'histoire du cinéma, Dark Vador, que Antoine nous a fait une jolie petite imitation hors antenne. marche militaire au cuivre percutant, où Williams exagère la structure carrée d'une marche à 4 temps à grand renfort de percussion pour enfoncer le clou. Un classique.
Thank you.
Extrait de l'épisode 4, le thème de la force est non moins iconique que le précédent puisqu'il est utilisé dans une très grande partie des moments dramatiques comme pour signifier qu'il y a encore de l'espoir. Et puis vous savez quoi ? Eh ben ça marche ! Que le fan de Star Wars qui n'a jamais frissonné sur ces quelques notes me jette la première pierre. Je vous attends.
Je suis pas fan.
Toi non plus, t'es pas fan. Que serait une grande épopée sans une grande histoire d'amour ? L'amour improbable entre Han Solo, contrebandier au grand cœur, et la princesse Leia, femme de caractère qui n'a besoin d'être de personne pour être sauvée.
Le Avec thème... deux pains au chocolat au niveau des...
Le thème joué au corps est d'une extrême douceur, contrastant avec les personnalités orageuses des deux personnages qui, bien sûr, se tournent autour pendant deux épisodes avant de se rendre à l'évidence. On retiendra, bien sûr, ce dialogue entre Leia et Han, un attendrissant « je t'aime » auquel Han Solo répond « je sais ». Un brin ringard « mais c'est mignon ». Quittons ensemble la trilogie originelle pour la prélogie, soit l'épisode 1, 2, 3 dans la chronologie de l'histoire ou 4, 5, 6 dans l'ordre de la sortie. C'est bon, vous suivez toujours ?
À peu près.
Rythmé par des cuivres et des cordes, survolé par de puissants chœurs, le thème symbolise l'affrontement entre le bien et le mal. Il est utilisé lors de l'affrontement opposant Dark Maul à Qui-Gon Jinn et Obi-Wan Kenobi dans l'épisode 1. Il sera aussi utilisé lorsqu'Anakin part à la recherche de sa mère dans l'épisode 2, moment déterminant dans sa lutte intérieure entre le bien et le mal.
Sans pleure doute... pas Antoine, ça va bien se passer.
Sans doute le plus beau thème écrit pour la prélogie. Un thème oscillant entre mélancolie et nostalgie, illustrant parfaitement l'amour interdit qui ne peut que finir mal, unissant Padmé et Anakin. C'est d'ailleurs cocasse que l'histoire d'amour la moins crédible de la saga la plus mal jouée à l'écran est la plus belle musique. Bon, moi, je trouve ça très drôle. Bon, finissons quand même avec la trilogie Disney qui vient de se terminer. Bon, quoi qu'on pense de ces films, il faut reconnaître que la musique n'a pas brillé comme dans les deux premières trilogies. Deux raisons à cela, peut-être. Premièrement, et le thème de Rey que l'on vient d'entendre en est un bon exemple, les nouveaux thèmes n'ont pas la force, l'émotion ni l'épique des anciens thèmes des deux précédentes trilogies. Raison numéro 2, la nouvelle trilogie use et abuse des anciens thèmes de la saga, ce qui ne participe pas à faire entrer de nouveaux thèmes dans la tête des spectateurs. Je pense que, enfin à titre personnel, que John Williams a livré tout ce qu'il a pu pour Star Wars, mais qu'au bout de 9 épisodes, il a quand même tendance un petit peu à se répéter. Et on peut le comprendre, qui ne se répéterait pas à force de travailler sur la même chose encore et encore. Bon, quoi qu'on en pense, de toute façon, John Williams a été un artisan indispensable au mythe qu'est devenu Star Wars, avec des musiques qui sont restées dans l'imaginaire collectif des cinéphiles. On peut donc lui pardonner sa baisse de régime pour les derniers films et surtout pour tous ces thèmes qui ont bercé des générations entières de fans de Star Wars. Merci, monsieur John Williams.
Bah, merci à lui. Et puis, rappelons que Rey nage et qu'on va dans les profondeurs.
Il y a une blague, là.
Ouais, mais je l'ai pas.
Rey nage ?
Elle nage, oui. Parce qu'une Rey, ça nage. Enfin bref.
Oh la vache.
Ça, je l'avais, mais...
Ouais, 2020 commence fort avec les jeux de mots pourris.
On sent que le 31 n'a pas été facile pour tout le monde.
Non.
Hein.
On va faire une petite pause musicale avec l'Empire du côté obscur de Hayama.
Hayama, oui. Le meilleur spin-off de Star Wars.
Un escalier de fer, un couloir étroit et obscur. Au fond de ce couloir, une porte entrouverte d'où nous parviennent les accords d'une musique qui en ce lieu paraît irréel. C'est le côté obscur de la force.
débarque et étale son pouvoir. La puissance de l'ombre s'installe. Non, ne résiste pas, ne lutte pas, ne te détourne pas de la main tendue vers toi. Où je vais explorer le royaume de tes peurs en devenir le dictateur pour mieux te dominer. Là, tu deviens raisonnable, c'est bien, oui. Tombe sous le charme pour de meilleurs lendemains. Pour les rebelles, la force est trop forte. Je balaye les petits Ewoks comme le vent balaye les feuilles mortes. Les indécis sont avertis qu'ils se méfient de la seule étoile qui se fond dans la nuit. Le bastion de bas fond du pays en action. L'énergie dégagée génère une telle attraction que vers lui se tournent enfin tous les regards pour s'apercevoir que l'espoir émerge du noir. Une partie de tout homme, la force manipule de rien. Il suffit pour que l'être bascule, que les yeux de l'aveugle s'ouvrent, qu'il contemple Mars de l'obscur côté. Le temple n'est pas peur, ouvre-moi ton cœur, viens vers l'empereur, sentir la chaleur de l'obscurité. Pour toi, il est l'heure de rejoindre l'armée des guerriers de l'ombre. Ne vois-tu pas ton côté clair qui succombe, c'est ta destinée. Pourquoi vouloir lui résister sans peine? Je ferai sauter les verrous de ta volonté. Sois l'autre dans la noire sur la plus pure de l'empereur et arbore les couleurs du côté obscur.
Obscur, la force est noire. Noir comme le château où flotte l'étendard, notre drapeau. Sois sûr que sous les feux, la vérité est masquée. Viens, bascule de notre côté obscur. La force est noire, noir comme le château où flotte l'étendard, notre drapeau. Sois sûr que sous les feux, la vérité est masquée. Viens, bascule de notre côté obscur.
Nous devons tous deux unir nos efforts pour l'attirer vers le côté obscur de la force.
Je suis le fils de Jafar, le sale rejeton de Dark Vador, le grand cador du maniement, le mic j'adore. Adapter ma technique à la manière du caméléon, sans pitié pour mater la rébellion. Millénaire, salive empoisonnée, langue amère, un pilote V50 en tant que sabre laser. Quoi, ma conscience comme seule médaille, je traque et je tripe sans remords tous les chevaliers de Jedi. La haine monte en toi, je le sais parfaitement, je vois ta main droite gantée de noir. C'est sans espoir, la mutation s'amorce. Ta nature que tu obtures le côté obscur de la force. Viens vers moi, passe le pont de part en part. Rejoindre ma demeure dans la lune noire. Mars et l'Empire, je lance mes troupes à terre pour éradiquer ce nid de Jean-Claude Godin Skywalker. Petit présomptueux, ne vois-tu pas le nombre déployé? L'armée des ombres, tu seras éliminé. Au nom des forces mystiques qui habitent là dans mon cerveau, je ne donne pas cher de ta peau. Le souffle de la force est en moi. Le microphone crépite, crash des tas de flammes sur les poils. Fils de Dieu, tremble mais lutte avec ses armes. Renverse les credos qui lui semblent erronés. Brise les traîtres de la tête opéronnée. Par la peur, l'ennemi reste sclérosé. Longue vie au règne de la nuit, d'une théorie qui renverse les croyances établies.
Aide-moi.
Idiote, il est trop tard. Tu appartiens au sinistre sombre seigneur vêtu de noir. Casque sous le roc, sous une armure du soldat le plus dur de l'empire du côté obscur.
Obscur, la force est noire. C'est noir comme le château où flotte l'étendard. Notre drapeau, sois sûr que sous les feux, la vérité est masquée. Viens, bascule de notre côté obscur. La force est noire. C'est noir comme le château où flotte l'étendard. Notre drapeau, sois sûr que sous les feux, la vérité est masquée. Viens, bascule de notre côté obscur.
Fais ce dernier pas en direction de la force obscure.
L'empereur te révélera la vraie nature de la force.
Comprends-tu maintenant ce qu'est la force obscure?
La force. Oui, la force.
Ouais, oh, on est bien.
On est bien sur Je veux au ciné.
Pas de
Et puis on va enchaîner sur quelque chose qu'on va tester dans cette émission. On va parler d'un acteur qui est Robert De Niro. Et puis si vous avez des choses à dire sur Robert De Niro ou peut-être même sur ses films, vous pouvez commencer. Qui veut...
Ah, on peut dire des choses sur Robert De Niro? Bah écoute, je l'ai eu au téléphone la semaine dernière. T'es chaud pour le nouvel an, il va bien.
Il va bien.
La femme va bien, les enfants ça va, tout va bien.
Tout va bien.
Tout va bien.
Voilà, tout va bien. Antoine, tu as quelque chose à dire sur Robert De Niro?
Bah, c'est un grand acteur.
C'est un grand acteur. Oui, il a plus d'une centaine de films, il en a même réalisé quelques-uns. Pas une quantité astronomique, mais il a quand même réalisé une fois dans le Bronx. Un très bon film. Raison d'État aussi. Donc c'est un acteur qui a fait énormément de films. des très très connus comme Le Parrain 2, Raging Bull, Les Affranchis, Taxi Driver, enfin il en a fait des casinos, Hit, j'en passe, c'est des meilleurs. Il a une carrière assez, assez importante. Bon, après, il y a des films qui sont moins connus peut-être, puis qui sont peut-être oubliables.
Tu parles certainement avec ce terme méprisant de la trilogie de Mon beau-père, ma famille et moi là.
Oui, entre autres, ou Malavita de Luc Besson.
Non mais il y a Luc Besson déjà.
Oui, non mais c'est pas bon. Il a fait aussi des films parce qu'il avait faim. C'est ce qui est logique.
Et il faut
manger.
Il faut manger.
Il faut manger.
Il faut manger. Et puis, il est quand même de bon ton de rappeler que si un film est mauvais, c'est pas toujours de la faute des acteurs.
Non.
C'est même pas souvent de la faute des acteurs, mais plus souvent de la faute au scénario inexistant, la réalisation qui est faite, qui est filmée avec les fesses, la direction d'acteur qui est inexistante ou ce genre de choses. Rarement dû aux acteurs en tant que tels. Témoigne des films où tu retrouves des acteurs qui sont reconnus comme étant brillants ou comme étant très 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 bons et le film est quand même pourri.
Oui, mais lui, il a quand même des films plus que notables. Il a quand même une carrière assez impressionnante.
Voilà. Donc, il a tourné dans des films pourris. C'est peut-être pas de sa faute.
Bah, il a plus d'une centaine de films à son actif.
Oui, voilà. Donc, dans le tas, il ne peut pas y avoir que des chefs-d'œuvre.
Non, c'est pas possible.
C'est pas possible.
Et puis, il y a aussi des films qui ne dépendent pas des acteurs pour qu'ils soient bons. Ça dépend aussi du réalisateur, ce qu'il en fait, du monteur, de toute l'équipe auto. Qu'est-ce qu'on peut parler? Et si Mafia Blues, c'était bien, c'était une bonne série de films, non? T'as pas connu? C'était des films humoristiques sur un mafieux qui allait voir son psy parce que ça allait pas et que fallait pas que ça se sache. C'était assez rigolo.
Bah c'est l'image que je pense le grand public garde de Niro, c'est dans ses rôles de mafieux parce qu'il en a fait quand même quelques-uns.
Bah il en a fait quelques-uns et puis là il joue sur le côté humoristique du mafieux puisque il en avait tellement fait que à un moment il a joué à contre-pied et c'est assez rigolo.
Il est devenu le cliché du mafieux à Hollywood.
Bah oui, mais c'est ça qui est rigolo.
C'est pour ça que Mon beau-père, c'est très très bien parce que ça joue là-dessus. Le mec qui pose là, il est hyper badass et tout ça, et tu te retrouves en père de famille ultra possessif et complètement déjanté. Je pense que ce film, son personnage n'aurait pas marché s'il n'avait pas l'antériorité de Niro, quoi. Ça marche parce que le grand public a une image de Niro.
Oui, mais il a fait d'autres films où il n'était pas forcément un mafieux.
Enfin, oui, il en a fait d'autres, certes, mais qui sont peut-être moins connus. Moi, je parle de comment de Robert De Niro est perçu par le grand public.
Oui.
Les grands films qui l'ont fait connaître, pour ne parler que Casino, de Taxi Driver, tous ces trucs-là.
Il était une fois en Amérique, même.
Il joue des rôles de mafieux ou au moins de bandits, donc...
Oui, c'est sûr.
Il a marqué de son empreinte ce genre.
Oui, mais dans Taxi Driver, il n'est pas un mafieux. Dans Raging Bull non plus.
Oui, mais il est creepy.
Il fait peur.
Tu peux.
Voilà, alors s'il y a des films à noter sur... notables, notés sur Robert De Niro, vous me direz lesquels vous plaisent le plus.
Robert De Niro, il était une fois en Amérique. S'il reste des gens qui ne l'ont pas vu.
Dernièrement, là, j'ai vu La Valse des Pantins. Donc, réalisé par Scorsese, c'est la cinquième collaboration entre De Niro et Scorsese, donc cinquième sur neuf. C'est un film qui s'est fait juste après Raging Bull.
Raging Bull.
Raging Bull, donc Raging Bull, c'est le film qui a quand même révélé, on va dire, à la face du monde le talent de Scorsese et de Niro. Donc, ils ont enchaîné peu de temps après donc, avec ce film-là. Donc, l'histoire, pour faire simple.
Alors, entre-temps, il y a eu New York quand même.
Ah ouais,
il y a eu New York.
Raging Bull et après
Raging Bull, il a quand même eu l'Oscar. Hein.
Oui,
non, mais c'est ce qui l'a fait révéler au grand public. Et si tu veux, donc après, ils ont enchaîné sur La Valse des Pantins. Oui. Donc vaguement, l'histoire, c'est Rupert Pumpkin, donc joué par Robert De Niro, Donc c'est Monsieur Personne, hein, pour faire simple, qui est sûr de son talent de comédien de stand-up et qui va essayer de forcer le destin en sauvant d'une émeute la star d'une émission de télé, donc interprétée par Jerry Lewis, donc qui joue Jerry Langford, et qui va être persuadé que pour le remercier de lui avoir entre guillemets sauvé la vie, Jerry va lui permettre de passer en direct sur son émission de télé. Mais la réalité va être tout autre, et voilà. Donc j'en dirai pas plus pour pas trop spoiler le film. Et ce film, alors, c'est un film un peu. Alors j'ai lu sur internet qui disait que c'est un film maudit, enfin surtout un film qui a été oublié parce que ça a été un gros bide en fait. Après le succès de Raging Bull, le film a un peu déstabilisé. Et en plus, quand on peut voir des images de Robert De Niro dans ce film-là, on pourrait croire que c'est une comédie en fait. En plus, donc c'est un film sur le stand-up, donc mais c'est pas du tout rigolo. Enfin, on retrouve ça reste une figure scorsésienne dans ce film-là. Donc c'est-à-dire une personne qui a du mal à s'adapter à la vie dans laquelle il vit, qui va se créer une réalité en fait, et qui va tout faire pour essayer de sortir du moule et ne pas vivre comme tout le monde. Et ce qui est rigolo, donc si pour les auditeurs qui suivent un peu l'actualité du cinéma, le film est ressorti dernièrement, en fait, on en a reparlé suite à Joker, parce que c'est exactement le même schéma. C'est quelqu'un qui se crée une réalité parallèle qui n'est pas la vraie vie, qui va tout faire pour passer à la télé. Là, c'est le fameux quart d'heure de célébrité, là, c'est Andy Warhol, je crois. Et en plus, il y a Robert De Niro dans les deux films. Donc il est disponible en ce moment sur Amazon, et franchement c'est certes un film oublié, mais c'est un film que moi j'ai trouvé super intéressant à regarder. Voilà.
D'accord.
Donc si le cœur vous en dit,
eh ben, le conseil de regardure ça sera ça.
Hein?
Le conseil de regardure ça sera ça.
Voilà.
Et eh ben ok, La Valse des Pantins.
Et eh ben La Valse des Pantins.
Donc il est disponible sur Amazon Prime.
Ok. Eh ben, on va écouter une petite musique. Allez, la musique de l'inspecteur La Bavure de Vladimir Kosma. Et puis, on se retrouve juste après. Sur Je vais au ciné, l'émission de cinéma. Et on va parler de films. Est-ce que vous avez envie de parler d'un film, hormis Star Wars, parce qu'on a déjà parlé de Star Wars.
On va parler de la musique. On va parler du film.
Non, mais pas encore Star Wars, je vous en supplie.
Bah, c'est inévitable. Et puis au moins, après, on est tranquille. On peut passer sur la année 2020, peinard.
Et bah alors, dis du mal, alors.
Bah, je vais dire du mal, oui.
Ouais.
Bon, alors, Star Wars 9.
Je vais dire du bien, alors.
Esprit de contradiction. Bon, alors, Star Wars 9, que dire ? Il vient après un épisode compliqué qui a divisé les fans, Star Wars 8, réalisé par Rian Johnson.
On parle du film, parle pas des fans, de tout.
Oui,
on
mais...
s'en fout.
Oui, mais on est obligé de...
fans, ne fait pas le fait, ne fait pas
oui, mais on est obligé de
film.
Poser le concept, le contexte, puisqu'en voyant le 9, on ne peut pas ne pas penser au 8. Le principal souci de cet épisode 9, c'est qu'il passe sa première heure à botter en touche tout ce qui a été présenté dans l'épisode précédent. Et du coup, on se retrouve avec un film bancal qui multiplie les facilités de scénario tellement qu'à un moment, enfin que plusieurs fois, on voit les ficelles tellement que c'est gros.
Bah, c'est des cordes à ce niveau-là.
C'est plus des ficelles, c'est des cordes. C'est vrai que c'est un gros problème d'avoir systématiquement botté en touche ce qui avait été proposé dans l'épisode du milieu. Et du coup, en fait, J.J. Abrams se retrouve à faire un peu deux films en un, quoi. Refaire son épisode 8 et apporter sa conclusion. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué malgré la longueur du film qui dure 2h20, si je me souviens bien. Bon, après, c'est très beau. L'action, ça n'arrête jamais. Vraiment, mais ça n'arrête jamais, 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 jamais. Donc, clairement, je ne pense pas qu'on puisse s'ennuyer devant ce film tellement que ça n'arrête pas. Bah oui, mais à moins de ne pas aimer Star Wars, c'est sûr que là, pour le coup, c'est
non,
sûr que
ça n'a rien à voir avec Star Wars. Mais le film est mauvais dans sa construction. C'est pas parce que. Ça, c'est fou avec Star Wars. Si t'aimes pas, c'est le. T'aimes pas Star Wars. Non, le film, comme le 7. Même si le 7 a des idées, ok, mais on s'en fout des idées. C'est loupé, mais c'est loupé. Non, mais c'est loupé. Il y a des mauvais... Enfin, je sais pas. Pour moi, le cinéma, c'est un langage. Comme quand t'apprends une langue, l'allemand, voilà, t'as des règles à respecter. Le cinéma, t'as des règles à respecter. Le 7 et le 8, on s'en fout du 7. Mais le 8, on s'en fout aussi. Mais le 9, il y a des moments, non. Enfin, tu comprends pas. T'as deux plans qui s'annulent. Enfin, non, techniquement, il est pas bon. Après, je m'en fous qu'il divise ou pas, ou qu'il rassemble les fans. Techniquement, non, c'est pas bon. Enfin.
Bah voilà, vous avez deux sons de cloche, vous choisissez.
Moi, j'ai résolution de ne plus dire de mal de film.
Heureusement.
Ça commence mal.
Ouais, bah voilà, Antoine n'a pas aimé. Moi, je reconnais que ce film est bourré de défauts, mais j'ai pas passé un mauvais moment, donc.
Voilà. Bah, faites-vous votre propre avis, allez le voir ou pas. Si vous aimez Star Wars, de toute façon, vous l'avez certainement déjà vu. Si vous n'aimez pas Star Wars, bah, n'y allez pas. Et puis, si vous vous posez encore la question, peut-être qu'il ne faut pas y aller. Voilà. On va résumer. Mais,
c'est quoi ton t-shirt là?
C'est Star Wars.
Ouais, non, mais moi, je suis au-dessus de ça, moi. De toute façon, je suis Star Trek Team, alors Star Wars, arrêtez de me gonfler avec.
Allez, je vous fais un rapide film. J'ai vu, alors j'en avais peut-être déjà évoqué, il est sorti, Retour à Zombieland de Ruben Fleischer. Ouch. avec toute une palanquée d'acteurs et actrices qui étaient déjà dans le premier. On peut rajouter Zoe Dutch,
Jess Eisenberg, Emma Stone,
Abigail Breslin,
voilà.
Et Zoe Dutch qui arrive dans la... Et en fait, ce film, c'est le 1 refait. 10 ans plus tard, mais c'est la même chose. C'est la même construction, il se passe à peu près la même chose. Il y a juste un personnage en plus qui est complètement... Bah, c'est une blonde, quoi. Qui est cruche, mais comme pas possible. Qui s'en sort, on sait pas comment.
Dans le pire cliché possible.
Hein. Ah ouais,
jamais... Ça fait un moment que j'avais pas vu ça, quoi.
C'est horrible. Enfin, moi, j'aime bien l'univers. Donc j'ai fait, ouais, bon. Mais concrètement... C'est pas bon. Enfin, faut être honnête. À un moment, même si t'aimes bien l'univers, même si t'aimes bien, voilà, ça te fait plaisir de les revoir. Bon bah tu dis.
C'est quoi l'univers de Zombieland?
Bah c'est drôle, c'est un univers de zombies rigolo.
De zombies, c'est...
Voilà.
C'est un univers zombie rigolo.
Voilà. Et puis mais sorti de ça, à part les quelques blagues notables. Et puis sans tout révéler, on revoit un personnage qu'on avait vu dans la saison, dans le premier film, qu'on revoit à la fin du film. Ça fait plaisir de le revoir, voilà. Mais c'est un film plaisir parce que t'aimes bien le premier. Mais sinon, non, c'est au niveau construction, ils sont pas fait chier en fait.
Un film plaisir coupable.
Ouais, voilà. Mais moi, ça fait 5 ans que je m'étais dit de toute façon, il y aura pas de suite. Donc là, bon, il y a une suite, mais j'en attendais rien.
Une suite pas nécessaire.
Moi, j'avais vu le 1 au ciné. J'ai jamais revu depuis. Je me souviens qu'il y avait l'acteur là, mince.
Lequel?
Woody Harrelson.
Jesse
Eisenberg.
Non, parce qu'il y a un caméo là de
Bill Murray.
Bill Murray. Ouais, je me souviens de ce passage-là. Je me souviens le passage de Bill Murray que j'avais trouvé excellent et du générique que j'avais beaucoup aimé.
Et ben alors, donc le personnage, l'acteur
spoiler
qu'on revoit à la fin, c'est Bill Murray.
D'accord.
On le revoit. Alors je dis pas pourquoi ni comment, mais on
revoit. Mais il est déjà sorti ce film. Moi, je pensais qu'il allait sortir.
Non, il est déjà
sorti. Oui, il est sorti. Bah, ça fait 3 mois, ouais.
Ouais, et puis là, il est dispo. Il commence à être dispo sur les.
Ah ouais, j'ai loupé le truc.
Ouais, il est dispo depuis.
Depuis pas longtemps.
Depuis le début du mois, sur en VOD.
Ouais, depuis pas longtemps. Voilà. Donc bon, si vous avez envie, allez le voir. Si vous n'avez pas envie, n'y allez pas. Mais vous forcez pas. C'est pas un film extraordinaire.
C'est dispensable.
Voilà, vous pouvez passer à côté. Bon, on va te dire au revoir pour cette nouvelle année, quand même. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine.
Bonne année.
Et puis, à la semaine prochaine.
Même jour, même heure,
le lundi à 14h.
En direct.
Bien sûr.
Même jour, même heure, même pomme. Même sur pomme. La place des grands hommes.
Ouais, oh c'était là, pas une obligation. Oh,
il a un talent, ce garçon. Mais ouais.
Bah après le jeu de mots, deux fois plus de vin en 2020. Hein.
Au revoir.
Au revoir.